Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Boisvert Radio. Je m'appelle Charles Boisvert et on est ensemble pour parler de sport jusqu'à 22h. Donc ce soir, émission chargée avec un invité qui va être là toute l'émission là en studio. Mais d'abord, je vais présenter mon collaborateur qui était pas là la semaine passée,
Antoine Girard, que c'est tu manques de mardi.
Ben c'est Antoine, puis je veux dire c'est Félix et Vincent qui sont venus. Qu'est-ce que tu as fait mardi soir passé?
Bon, tu vois, passé, là, j'ai assisté à un masterclass.
Oui, c'est vrai, c'était à Tact.
De gestion de crise qui a été faite par la firme Tact. C'était très professionnel, c'était vraiment le fun à faire, là.
J'étais là au début, mais j'ai quitté pour aller à l'émission.
Sérieusement, là, c'est sont très, 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 très professionnels. Puis tu vois que c'est une compagnie qui ça va vraiment à bonne place, là.
Ben oui, tout à fait. Puis pour avoir vu la première moitié de cette classe de maître, c'était super pertinent. Puis tu sais, pour moi qui se dirige plus vers le journalisme, là, c'est toujours pertinent là, d'avoir des connaissances dans le plus de domaines possible parce que veux pas les relationnistes puis les journalistes travaillent ensemble.
Ouais.
Fait que travaillent ensemble et contre. Là. En tout cas, ça dépend des enjeux. Ce soir à l'émission, on a le grand plaisir là de recevoir un nom très connu dans le monde de la radio de Québec. Jérôme Landry, qui est à ma gauche. Salut Jérôme, ça va bien?
Hey, salut à vous autres. Oui, ça va très très bien. Merci de l'invitation. Je vous connaissais pas, mais là, je pense que je vais vous écouter le mercredi soir,
Un auditeur à la fois, t'es.
Oui.
Puis là, si ça passe par une invitation, ça fait super plaisir de te recevoir, là. J'ai l'impression que dans le monde du sport et dans le monde de la radio, t'es très polyvalent. Tu peux nous parler d'hockey, tu peux nous parler de football, tu peux nous parler d'hockey mineur, tu peux nous parler des Nordiques, tu peux nous parler de tellement d'affaires. Donc, c'est super intéressant.
Mais je suis pas un expert. Moi, je suis vraiment un fan.
Okay? Ben, c'est ça.
Il y a des experts dans le sport. Tu sais, moi, j'en connais qui connaissent le football 10 fois plus que moi, mais je suis vraiment un maniaque. J'adore ça, tu sais, mais c'est pas moi qui va te sortir toutes les statistiques détaillées sur...
C'est correct, on a Antoine pour ça.
Ouais, c'est ça, il y en a pour ça. Tu sais, moi, je suis vraiment plus un... Des fois, je dis que je suis un fan, mais je suis vraiment un fan de sport à base, tu sais.
Ben oui, tout à fait. Puis le sport et les bien-être du sport ne sont plus à dire, à redire. Donc, faire du sport, s'intéresser au sport, pour vrai, c'est super, c'est super bénéfique. J'avais envie de structurer un peu l'entrevue en trois grosses parties. D'abord, un peu parler de ton parcours radio. Ensuite, là, on sait que dans le football, ça brasse avec les séries actuellement. Dans le hockey, on a eu une grosse nouvelle qui touche un gars de Québec la semaine passée.
Oui.
Donc, on a tellement de sujets avec toi ce soir, donc voilà, l'émission commence. Et ben justement, je veux juste dire en partant, si jamais vous pensez quitter éventuellement pendant l'émission, ben je vous rappelle que vous pouvez suivre Boisvert Radio sur les médias sociaux et que à peu près demain ou jeudi, on va mettre là les rediffusions sur notre Spotify et notre Apple Podcast, donc vous pouvez aller nous écouter ou nous réécouter après l'émission. Donc, Jérôme, présentement, t'es au FM 93 dans l'émission Trudeau-Landry avec Jonathan Trudeau.
Ouais.
Ça fait combien de temps que tu fais de la radio? Puis qu'est-ce qui t'a mené vers le monde de la radio?
C'est une longue histoire. Moi, j'ai commencé la radio en 2007 à Radio X. Fait que là, ça fait quand même déjà un bout. Ça fait
17 ans.
17 ans. Caroline, je viens de le dire, 17 ans de radio quand même. Mais moi, je faisais de la télé avant. Tu sais, des fois, c'est le contraire. Il y en a beaucoup qui font de la radio.
Tu étais à TQS avant.
TQS, exactement ça. Mais avant ça, j'étais au Canal 9, ce qui s'appelle Ma TV aujourd'hui sur Vidéotron. Moi, j'ai commencé au Canal 9 en sport, d'ailleurs. Parce que moi, mon rêve, c'était d'être journaliste sportif. Là.
Ouais.
Tu sais, moi, j'écoutais les lignes ouvertes de sport quand j'étais jeune. Marc Simoneau, vous autres, j'ai jeune un peu. Là, mais
Marc Simoneau, pour moi, c'est un complexe à Beauport.
Oui, c'est ça, c'est l'aréna. C'est ça, mais moi, c'était une religion. Là.
Ouais.
Tous les soirs, je suppose, en écoutant Marc Simoneau à l'époque des Nordiques. Fait que, tu sais, moi, je suis né là-dedans. Là. Sérieusement, je suis un petit gars.
C'est mal, hein, tu sais. Genre, juste le fait d'avoir ça à Québec, là, on ne pourrait même pas s'imaginer
c'est
ça.
Fred, là, c'est fou. Ça prenait toute la place. T'sais, moi, je pensais à ça à journée longue. C'était... Fait que moi, je rêvais d'être journaliste sportif. Puis le premier rôle que j'ai eu dans les médias, c'était dans une émission de sport qui s'appelait Sport Actualité au Canal 9 en 1998. Je commence à faire un bail, ça aussi. Avec Frédéric Bonjour, qui a été longtemps là-dedans aussi.
Travaillait à Saint-Georges, lui.
Oui, exact, à Fondation Saint-Georges. Tu connais, Fred?
Oui, mais j'ai côtoyé parce que j'allais au secondaire. Là, il faisait nos... C'est lui l'animateur des galas de foot.
C'est ça,
Il faisait beaucoup de reportages aussi.
Fred, c'est un gros maniaque de sport aussi. Son seul défaut, c'est qu'il prend les Cowboys, mais ça, ne peut pas être parfait. Fait que c'est lui qui m'a donné ma première chance en 98. Puis on travaillait souvent ici, justement, à l'université. On couvrait, mettons, le volleyball universitaire, basket universitaire.
Le football?
Le Rougeard, dans ce temps, Rougeard commence en 95. Fait que, oui, on devait le couvrir un peu, je me rappelle pas, mais tu sais.
Avant que ça devienne ce que c'est rendu aujourd'hui, c'est avec toutes les tailgates puis les 18 000 personnes au stade Telus.
C'était avant la première Coupe Vanier, donc 98. Fait que là, c'était, de mémoire, c'était Mike Labadie qui était le coach à l'époque. Il n'y avait pas les estrades aujourd'hui, mais effectivement, on devait venir de temps en temps. Fait que ça a été ça, ma première job dans les médias. Puis j'ai toujours. En tout cas, j'ai longtemps essayé après ça de travailler comme journaliste sportif. Après ça, je suis allé à TQS parce que, bon, viens voir ce qu'il m'avait vu au communautaire. Puis, un peu comme vous faites là, tu sais, dans le fond, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous entendre. Puis,
on l'espère.
Il va se passer quelque chose.
On se croise les doigts.
Fait que TQS m'a appelé. Puis là, je remplaçais Stéphane Turcot et Marc Durand.
OK.
Dans les bulletins de nouvelles de TQS à l'époque.
Tu étais un peu surnuméraire, genre?
Exact. Surnuméraire. Okay. J'ai commencé comme ça. Marc Durand faisait une émission hebdomadaire qui s'appelait Hebdo Sport, une demi-heure par semaine sur le sport local à Québec. Fait que quand il prenait ses congés, j'allais faire l'émission à sa place. Puis quand Steph Turcot prenait ses congés dans le bulletin de nouvelles, ben je prenais sa place aussi, tu sais, à faire toutes sortes de reportages sportifs sur. Je me souviens, à l'époque, c'était les remparts d'Éric Chouinard puis de Simon Gagné à l'époque.
Wow.
Puis, il y avait les Citadelles aussi à Québec, le club école du Canadien dans la Ligue américaine avec Mike Ribeiro. Puis à un moment donné, Markov était là aussi dans ce temps-là. Puis écoute, moi, j'ai vécu tout un trip là,
au début de carrière de joueurs qu'on connaît aujourd'hui puis qu'on est comme « wow ».
Exact.
Les côtoyer quand ils sont jeunes comme ça.
Puis je couvrais les remparts à l'époque du Peps. Je l'ai fait un peu au Colisée, mais à l'époque
c'est
du
vrai,
Peps.
Ils jouent au Peps.
Ouais, on commençait là à leur retour en 97.
Oui, Krim, t'as une bonne culture sportive.
tu pourrais être surpris.
je vois ça. Puis c'est ça. Puis j'ai fait un peu de sport aussi, parce que quand t'es surnuméraire, à un moment donné, il faut que tu prennes toutes les occasions.
Oui.
Puis j'ai travaillé à TQS Montréal aussi. Puis ça, j'ai vécu un bon trip aussi, parce que je travaillais les fins de semaine sur le bulletin de nouvelles à TQS Montréal.
OK.
Puis je faisais ça, entre autres, le samedi soir puis le dimanche soir. Puis ma job, c'était, mettons, de passer tout l'après-midi à regarder les matchs de la NFL. Il fallait que j'écrive
Quel job plate!
Puis là, il fallait que j'écrive les textes du lecteur de nouvelles, qui était François Bessette à l'époque. Là.
Okay.
Fait que, sérieusement, je gagnais dans le temps, là, en 99-2000, gagner 25$ de l'heure, là, c'était beaucoup. Là. Fait que je gagnais 25$ de l'heure.
Même aujourd'hui, c'est beaucoup.
Ben, c'est ça. Puis imagine-toi dans le temps. Fait que je gagnais 25$ de l'heure à résumer, à écouter le hockey puis le football, puis à faire écrire les résumés comme rédacteur.
Ouais.
Puis là, de temps en temps, quand il n'y avait personne, ben, j'allais couvrir le Morning Skate du Canadien aussi. De temps en temps, les matchs du Canadien. On me voyait pas beaucoup à l'antenne. T'sais, j'étais plus.
Je dépannais.
C'était
peu
plus
dans
comme
la salle
rédacteur.
De nouvelles, là,
ouais, j'allais chercher des clips aussi. Tu sais, je rentrais avec le micro dans le vestiaire, puis tu sais, je dépannais. Là, tu sais, c'était pas moi la vedette en avant, mais écoute, c'était trippant pas à peu près là, dans ce temps-là.
Mais vraiment, c'est clair. Puis là, tu me parles quand même beaucoup de télé à tes débuts. Qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué vers la radio?
Ben, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais surnuméraire au sport en télé, ben là, à un moment donné, il fallait que tu sais, je voulais gagner ma vie, de façon régulière. Puis moi, bon, j'avais étudié en sciences politiques, puis j'ai toujours eu de l'intérêt pour l'actualité aussi. Fait que là, ils m'ont offert de devenir reporter régulier, mais fait divers, palais de justice, généraliste. Fait que là, j'ai fait ça pendant 7-8 ans à TQS, puis j'ai vraiment trippé aussi à faire ça. Là, j'ai découvert une passion même, parce que je vous avouerai que la seule passion que j'avais vraiment quand j'étais jeune, c'était le sport. Là, suivre les Nordiques, suivre le football et tout ça. Mais quand j'ai touché, mettons, au journalisme général, les faits divers, le palais de justice, j'ai découvert carrément une autre passion. J'ai vraiment embarqué là-dedans. Puis j'ai toujours été quand même aussi très intéressé par la politique. J'avais étudié là-dedans. J'ai toujours suivi ça aussi.
T'as-tu déjà couvert l'Assemblée nationale?
Je dépannais. Je dépannais mon ami Gérard Deltel, qui est rendu ministre aujourd'hui, qui était notre reporter à TQS. Fait que quand il était pas là ou qu'il avait besoin d'un coup de main, d'avoir deux journalistes au Parlement, j'allais le dépanner, puis j'aimais ça. Tout ça pour dire que ça m'a fait comme un bagage de toutes sortes d'affaires. Tu sais, sport, politique, palais de justice. Puis à un moment donné, tu sais, je veux pas, quand tu fais du reportage télé, à un moment donné, ben, tu fais le tour, là, tu sais, de couvrir la première tempête de neige de l'année,
les Vox Pop.
Ouais, les Vox Pop au Maxi à Vanier, mettons, les procès, ben, moi, j'ai adoré couvrir le palais de justice, mais à un moment donné, là, plusieurs causes qui se ressemblent. T'as comme une routine qui s'installe. Puis, à TQS, moi, j'étais mon meilleur chum à TQS, c'était Dominique Moret. Dominique Moret qui fait encore de la radio aujourd'hui à Radio X. C'était pas mal mon meilleur body à TQS. Puis, on couvrait un peu les mêmes sujets. Puis, tu sais, toujours trouvé qu'il y avait un style de journaliste agressif et tout ça. Fait qu'on était devenus ben chum. Puis Doom, un moment donné, il a fait le saut à Radio X. Un moment donné, il a décidé que c'était fini le journalisme quotidien. Puis il est devenu directeur de l'information à Radio X. Puis là, tranquillement, pas vite, il est arrivé en onde et tout ça. Là, on est en 2006-2007 ou à peu près. Puis écoute, on a toujours resté en lien. Puis moi, je toujours été attiré par la radio aussi, parce que, tu sais, je te disais tantôt que j'écoutais Marc Simoneau, mais j'écoutais André Arthur à côté aussi, j'écoutais, tu sais, tout ce qui se faisait en radio.
Toutes les légendes de la radio de la ville de Québec,
j'ai tout écouté ça, j'écoutais André Arthur, j'écoutais le Zoo, j'écoutais la Jungle, j'étais vraiment un maniaque de radio. Puis à un moment donné, à Radio X, Gilles Parent est parti. Gilles Parent, qui était l'animateur vedette de Radio X, il est parti. Mm-hmm. Puis, il faisait l'émission du retour à l'époque de 2 à 6 à choix.
Il est-tu allé direct à Cogeco ou il a bifurqué vers...
Il était là au 93 après. Okay. C'était en 2007, ça, qu'il était allé au 93. Fait que là, à un moment donné, Dominique Morin commence à me dire ça. Il dit, ouais, ça te tenterait-tu de faire de la radio? Puis, j'irais pas ça, essayer ça. Mais là, de là à changer de job, j'étais peut-être... Tu sais, il y a quand même une marge entre les deux parce que...
Mais c'est un saut dans le vide quand tu l'as jamais fait.
Tu sais, j'étais syndiqué, j'avais une job sûre, je gagnais quand même un bon salaire déjà. Mais ce que je savais pas, c'est qu'un an après, TQS allait fermer aussi.
Ça a pas de sens, ça.
Moi, je suis parti un an avant que ça ferme.
C'est malade.
Fait que ma job garantie...
T'avais-tu une DeLorean, genre, ou t'avais-tu une boule de cristal?
Non, il n'y avait pas de rumeur quand je suis parti, mais un an plus tard, j'ai réalisé qu'une job sûre dans la vie, ça existe vraiment pas, surtout pas dans notre domaine.
Surtout pas dans le monde immédiat.
Puis encore plus rendu aujourd'hui.
Ouais, fait que bref, après 4-5 rencontres avec Patrice Demers, qui était le propriétaire de Choix à l'époque, puis Doom, puis tout ça, fait que finalement, on a signé un contrat, puis j'ai décidé de faire le grand saut. En radio en 2007, puis là, ça fait 17 ans. 17 ans que je fais de la radio au quotidien à Québec. Bien content.
Puis en 2007, à ce point-là, c'était quoi le statut de Radio X? C'est une radio que le monde écoutait?
C'était très écouté encore, sauf que moi, je suis arrivé après le départ de Jeff Filion. Jeff est parti en 2005. C'était quand même la grosse vedette de la station. Mm-hmm. Ça s'était maintenu parce que Gilles Parent était là. Denis Gravel avait continué le matin, justement, avec Dom Moret. Fait que ça se maintenait bien, mais là, quand Gilles est parti, là, ça a été un coup assez dur. Puis tu sais, il y a l'auditoire, ça c'est une chose. L'auditoire était quand même stable, mais t'avais le côté des ventes. Parce que quand Gilles est parti, puis ça a toujours été sa force, c'est d'amener beaucoup de clients, c'est d'amener beaucoup de pubs en radio. Fait que quand
c'est
il est
un
parti,
bon
ça donne. Ouais, fait que
comme Dupont un peu là.
Exact, c'est ça. Puis c'est un peu la clé de notre succès en radio. Faut que t'amènes de la clientèle, faut que t'amènes de l'argent en radio. Fait qu'on a eu à travailler fort. Au début, là, on a eu une année ou deux à pédaler quand même assez fort. Mais j'ai été chanceux parce que je faisais des émissions, je faisais le retour avec Stéphane Gass, puis je faisais le midi avec Stéphane Dupont.
OK.
Puis là, ça a décollé. Tu sais, Dupont, aujourd'hui, il a fait du millage depuis ce temps-là, mais ça, c'était vraiment au début de son succès 2007-2008. Puis premier sondage que j'ai fait avec Steph, on était l'émission de radio la plus écoutée à Québec. Pas juste le midi, là, point. Là, c'était l'émission la plus écoutée, point final. Fait que c'est ça qui m'a donné une bonne swing à l'époque. On a réussi à remonter à la station avec Denis Gravel, puis avec Doom, et tout ça, puis avec Monsieur Gass et Vince Cochon aussi, qui était notre gars de sport à l'époque, qui attirait aussi pas mal de monde. Fait que c'est comme ça qu'on a réussi à faire remonter la station presque au même niveau qu'à l'époque de Filion. Là, là.
Ouais, j'ai vraiment souvenir, quand j'étais au secondaire, mon père allait me porter à l'aréna de Sainte-Foy parce que j'étais en concentration hockey. Okay. C'était Radio X dans le char, puis j'étais toujours content quand je tombais sur les sports avec Vince.
Ben
je me souviens plus c'était quoi le jingle, là, mais ça me restait pogné dans la tête. Mais en tout cas, je m'en souviens plus. Mais...
Il y avait le bloc football, il y avait un jingle juste pour le foot le vendredi puis le lundi aussi. Puis c'est drôle parce que ceux qui nous aimaient pas, mettons les péquistes, puis ils disaient je vous écoute, là, mais c'est pour écouter Vince Cochon là, qu'on vous écoute. C'était drôle l'excuse pour nous écouter.
tu disais tantôt. T'as commencé la radio en 2007, fait que 17 ans de radio. C'est quoi l'entrevue que t'as faite qui t'a le plus marqué, que t'as le plus aimé faire?
Ça n'est une... Il y en a une qui m'a beaucoup marqué, c'est une entrevue avec Derek Aucoin, l'ancien lanceur des Expos.
Wow.
Je pense, de mémoire, j'y ai parlé peut-être 6 mois avant son décès. Puis il me racontait comment, tu sais, les premiers symptômes de son...
Ah, il avait déjà
sa
le cancer.
Sa tumeur est arrivée, puis c'était levé un matin, puis ça filait pas pantoute, puis c'était rendu à la job, puis tu sais, ça filait pas pantoute. J'avais jasé un bon 15-20 minutes avec lui, puis ça m'avait marqué pas mal. Ça, à cette époque-là, j'étais rendu à Énergie. J'étais plus à Radio X, j'étais rendu à Énergie qui avait décidé d'essayer de faire du de la radio parlée, de la radio talk.
Ça a duré combien de temps, la Énergie, la radio parlée, genre?
Ça a duré de 2015 à 2020.
Ouais, c'est ça. Okay.
Parce que les autres.
Parce qu'il y avait Jeff Lyon qui était là, c'est ça?
Ouais, Jeff était là. Ouais, puis Dupont était là. Moi, je suis allé rejoindre Steph Dupont à un moment donné là-bas parce qu'on était déjà des bons complices. Puis eux autres, dans le fond, le plan de Bell Media, c'était pas compliqué. Ils voulaient copier le style Radio X.
Ouais.
Ah,
okay. Fait qu'ils ont pris les anciennes Radio X.
Ouais, puis ils nous ont acheté à gros prix. Là, ils ont vraiment sorti le chéquier pour nous sortir de Radio X puis carrément copier le modèle. Là. Ouais. Puis tu sais, il y a des comptables à Toronto qui regardaient les chiffres. Ils disaient, what the hell, Radio X, quoi ça? Tu sais, ils regardaient, ils voyaient que les stations Bell à Québec, ça marchait pas pantoute. Ça marche partout ailleurs. Là, à Toronto, à Montréal, ça marche bien. Puis ils voyaient qu'à Québec, qu'est-ce qui se passe là? Fait que là, ils se faisaient expliquer ce qui se passait. Fait qu'à un moment donné, on est allé chercher. Rentrez-les, puis on va copier tout simplement la formule.
Le modèle.
Puis il y en a qui disent que c'était comme un échec un peu, mais on a quand même fait 5 ans, là. Ouais. Quand même fait 5 ans de radio parler. Puis à un moment donné, écoute, je pense qu'ils trouvaient ça trop compliqué, plus. Trop coûteux. On était dur à gérer. Honnêtement, je pense qu'ils ont trouvé qu'on était un peu. On était dur à gérer. Tu sais, il y a des boss qui essayaient de nous formater dans le modèle énergie. Ouais, là, dans le modèle Bell Media. Tu sais, parce que nous autres, je te dirais que c'était la haute direction à Montréal, pas Toronto, qui voulait nous engager. Les boss à Québec, eux autres, ils étaient habitués à l'ancienne formule, puis ils comprenaient pas trop ce qu'on faisait, là, tu sais. Ouais. C'était, ils ont eu de la misère à s'habituer. Il y en a qui avaient hâte qu'on s'en aille, je pense, à Québec, là. Dans les bureaux, ouais.
Donc là, t'es rendu au 93.
Ouais.
Pour, justement, avec Trudeau Landry, là, comment ça se passe, là, présentement? Dans le fond, ton aventure radio, là.
Écoute, c'est notre 4e saison, nous autres, le midi dans Trudeau Landry. Puis quand Bell a décidé de tirer la plug sur la radio parler à Énergie, moi, je savais que je m'en allais au 93, parce que j'avais déjà eu quelques discussions. J'avais des atomes crochus avec bien des gens là-bas. Fait que ça s'est comme fait ben naturellement après là que je passe au 93. Puis au début, il m'avait engagé. Puis Jonathan n'était pas là encore au début. Ça, c'est en pleine pandémie d'ailleurs. C'est la première année de la pandémie à l'été 2020. Ils m'ont engagé, puis tu sais, ils m'ont fait faire un pilote à un moment donné avec une animatrice de Montréal. Donc, ils voulaient que je fasse un duo avec que je nommerais pas, là, parce qu'elle est bien correcte, puis il n'y a rien à voir là-dedans. Mais j'ai fait un pilote avec une animatrice de Montréal. Puis l'émission, ça devait s'appeler Landry avec la personne. Là, quand on est en duplex, puis tu sais, c'était compliqué. Là,
ouais, les circonstances n'étaient pas favorables.
Non, puis tu sais, les sujets de Montréal, les sujets de Québec en radio,
c'est
vraiment pas la même affaire, pas pareil pantoute. Fait que là, on a essayé un pilote, là, j'ai dit, c'est bien fin, mais ça marchera pas. Fait que là, les boss, ils m'ont dit, OK, mais qui tu veux, là, je veux dire, on fait quoi, là? Parce que l'autre voulait un duo, ça a longtemps été comme ça, au 93, Normando, Duhem et tout ça, fait que...
Ah, c'est vrai, hein?
J'ai dit, essayez donc, Jonathan Trudeau. Là, Jonathan, dans ce temps-là, il était à la joute à TVA. Il y avait un contrat avec Québécois et tout ça. Puis, ça allait quand même bien, ses affaires. Mais je savais que Joe, il voulait... Un de ses rêves, c'était de faire la chronique dans l'émission de Paul Arcand à 7h04 tous les matins de semaine, comme Jean Lapierre faisait.
Tu le connaissais bien?
Ouais, je le connaissais parce que Joe, on l'avait... Quand j'étais à Radio X, on l'avait rentré comme chroniqueur politique déjà à Radio X. Fait que on avait déjà une bonne relation. Fait que j'ai dit, allez, essayez les dons, Joe. C'est à coup qui viendrait. Finalement, ça a marché. Puis là, c'est notre 4e saison au 93.
Parce que qu'est-ce qui est cool avec Cogeco, c'est que tu peux vraiment faire toutes les stations, là, I guess. Tu peux, si ils ont besoin de toi, mettons, à Montréal pour une chronique, tu peux embarquer. Là.
Exact. Je fais souvent le show de Pat Lagacé dans le retour à Montréal. De temps en temps, quand il veut savoir ce qui se passe à Québec, il m'appelle, puis on fait une chronique, puis on fait le tour des sujets de Québec. Je fais une chronique régulière au 106.9 en Mauricie aussi avec Alexis Sanson. Je sais pas si tu as déjà travaillé ici, puis Alexis.
Ben, je sais pas, mais l'année passée, dans Balado Sportif, dans les Jeux de la Com, on l'a déjà eu comme invité. Je l'ai déjà interviewé.
C'est ça, lui, il est rendu Morning Man au 106.9. Fait que le mardi, le jeudi, je parle. Puis ce qui est le fun à Cogeco, c'est que c'est comme la grosseur parfaite d'entreprise parce qu'il nous laisse carte blanche. On a le droit de niaiser un peu, de déconner un peu, pas trop. Faut faire de l'information quand même. S'ils tiennent à cette identité-là. Mais ça peut être plus léger. Puis en même temps, on a toute une banque de collaborateurs partout.
Oui.
Tu sais, comme jeudi, ben on va parler à Martin McGuire parce que ça va être le match Canadien-Islanders. Fait que Martin McGuire va être là. Hier, on avait Philippe Bonneville qui était au procès de Jonathan Betté, procès civil contre la Sûreté du Québec dans l'affaire Cédric Provencher. Là, demain, on va peut-être parler avec Raphaël Jacob parce que c'était les primaires dans le New Hampshire ce soir. Fait que on a une liberté, on peut être léger, on peut être nous-mêmes, on peut niaiser un peu, mais on a tout un réseau de chroniqueurs. T'sais, on est appuyé vraiment par une vraie salle de nouvelles aussi, puis des journalistes. T'sais, nous autres, on a Philippe-Rodrigue Comeau, qui est notre journaliste terrain à l'Hôtel de Ville. Fait que c'est vraiment... Honnêtement, c'est un endroit... Je vous souhaite de faire de la radio, là, les gars. C'est l'endroit parfait pour faire de la radio.
Écoute, on est toujours à la recherche de stage, si jamais.
Ouais. Mario Langlois, un jour, va prendre sa retraite. Je l'adore, Mario, mais il va prendre sa place un jour.
Excellent. J'ai envie qu'on parle maintenant là, de sport, parce que comme on disait, là, t'es un passionné, puis justement, même dans ton parcours radio, dans ton parcours télé, le sport est en fait quand même une partie majeure. On parle de football ou de hockey en premier? Qu'est-ce que t'as envie, Jérôme?
Si tu veux, moi j'aime les deux. Si tu veux parler de golf, on peut parler de golf. Si tu veux parler de baseball, n'importe quoi.
On va commencer par parler de football. Puis je vais te citer dans Trudeau Landry que t'as dit vendredi. T'as dit, moi je veux pas que les Chiefs deviennent une dynastie.
Non, je veux pas.
Et là, les Chiefs ont gagné contre les Bills en fin de semaine. Quand même, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match-là?
Ben ça, là, faut que je te dise, c'est mon petit côté fa-fan. Tu sais, quand tantôt, je te disais, je suis pas un expert, je suis vraiment un fan. Ça, c'est mon petit côté fa-fan des Patriotes, là, qui me fait dire ça.
Ouais.
Puis,
parce que la vraie dynastie de la NFL, c'est les Patriotes.
Exactement ça, puis je veux que ça reste de même. Comprends-tu? Je veux pas que Mahomes rejoigne Brady, puis. Mais c'est la première fois de ma vie que j'écoutais une game de football, puis que je prenais pour les Bills.
Je prenais pour les Bills,
c'est probablement la dernière fois aussi, parce qu'on dirait que c'est une équipe qui, on dirait qu'ils gagneront jamais rien. Vous autres encore
fou.
Là?
C'est fou.
Vous autres, vous êtes jeunes, mais avez-vous déjà lu là, sur les 4 Super Bowls perdus par les Bills? Vous savez ce que c'est, là? Fait que 4 apparitions au Super Bowl en ligne avec Jim Kelly comme carrière. Tout un club de football, là. Jim Kelly, Thurman Thomas, Bruce Smith en défensive. Tu sais, il y avait Marv Levy, l'entraîneur. C'était vraiment une équipe. Andre Reed, le receveur de passe. Tu sais, il y avait tout pour gagner. Puis 4 années en ligne, ils se sont plantés. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais faut être fort pour se rendre 4 années en ligne au Super Bowl.
Mais ça reste que la bague de championnat, ils l'ont pas.
C'est ça, la bague de championnat, ils l'ont pas. Puis là, ça fait genre 4-5 ans que j'entends dire, là, on s'en vient, là. Là, on s'en vient,
là. C'est notre année.
Ouais, c'est le sport de Josh Allen.
Josh Allen, il est là, dans le fond.
Ouais,
là,
exactement ça.
Une flamme.
Ouais, puis très décevant, les Bills. Tu sais, je regardais Stephon Diggs, le receveur, en fin de semaine. Ça, c'était un gars qui chialait l'année passée parce que Josh Allen, il donnait pas assez le ballon. Là, dans un moment important, il a la chance de faire un catch. Il a la balle dans les mains après une passe incroyable de Josh Allen. Puis, il pogne pas. T'sais, c'est vraiment un club. C'est vraiment, il n'y a rien à faire avec ce club-là. Il n'y a absolument rien à faire avec cette équipe-là, les Bills.
Ouais. Puis aussi, le placement manqué de Tyler Bass à la fin.
Ah, ben ça, c'est sûr. Sauf que ça s'est joué avant. Je comprends le placement manqué, mais ça s'est joué avant, ce game-là, pareil. Là.
Ouais, non, c'est clair.
Facile d'accuser le botteur, mais regarde, c'est ça. Mais... je suis déçu un peu pour les fans des Bills, parce que j'ai un paquet de chums fans des Bills.
Ouais.
Parce que, tu sais, souvent au Québec, est-ce que tu es déjà allé à Buffalo?
Faut jamais, c'est sur ma bucket list. Là,
parce que souvent au Québec, quand les gens suivent le football, souvent, le premier endroit où tu vas voir la NFL, souvent, c'est à Buffalo.
Parce que c'est plus proche, pas mal. C'est, avec Foxborough.
Foxborough est un petit peu plus proche.
Okay.
C'est plus le fun aussi, je vous le dis. Mais c'est le fun aussi à Buffalo. T'sais, les fans sont vraiment capotés. Mais tu sais, moi, j'ai un paquet de chums qui sont fans des Bills parce que.
Il y a aussi le fait que Toronto proximité. Est proche aussi. Là, les fans canadiens, ils se ressemblent, mais
ils aiment bien les Bills. Ils voient de la proximité dans les Bills.
Quand tu vas là, écoute, c'est plein d'autobus de Toronto, des étudiants de Toronto. Ça brosse pas à peu près. Moi, quand j'arrive là, Buffalo, avec moi, mes vêtements, des pattes.
C'est pas facile.
J'ai raconté souvent, là, je mange des morceaux de steak par la tête, des saucisses hot dog par la tête. Je me suis pas fait cracher dessus, là, ça serait le bout. Là, c'est dégueulasse un peu, mais je me fais lancer des objets. T'as une toilette, tu te fais pousser par les fans des Bills. Une couple qui sont pas reposant là-dedans, mais je suis quand même un peu déçu pour eux autres. Puis la fenêtre dans la NFL, des fois, reste pas ouverte.
Ouais, c'est ça,
c'est dur de garder une équipe en place aussi avec le plafond salarial, les agents libres, McDermott, vas-tu rester? Bref, des fois, les fenêtres se ferment plus vite qu'on pense pour gagner aussi.
Oui, justement. Mais justement, pour en revenir aux Chiefs, c'était une fenêtre qu'on pensait qu'elle allait se fermer cette année vu leur saison. Ouais. Ça allait pas tant bien. Tyreek Hill est parti.
Elle va se fermer, là.
Puis là, va-tu se fermer un jour? Là? Il joue contre les Ravens. C'est dimanche le match. C'est qui s'en va au Super Bowl?
Moi, je pense que ça va être les Ravens. Mais encore là, c'est plus un souhait que d'autres choses. Mais je regarde les Ravens avec Zay Flowers, avec Odell Beckham Jr. Ils ont des bons receveurs. Lamar Jackson, je pense qu'il est à son, il est à son prime. Ils vont jouer à domicile. Ils ont une bonne défensive. Puis les Chiefs, là, tu sais, comme tu disais, tu parlais de Tyreek Hill, ils ont plus les mêmes receveurs. Quoique, tu sais, ils ont quand même une bonne attaque encore. Pacheco, porteur de ballon. Je regarde aller, par contre, Travis Kelce. Il a joué un bon match en fin de semaine.
Game,
l'autre game d'avant, par contre, ça avait été.
C'est pas une grosse saison.
Non, c'est pas une saison incroyable. Fait que j'ai l'impression que les Ravens vont battre les Chiefs en fin de semaine. Puis tu sais, c'est ça qui est dur dans le football. C'est ça le miracle des Pats, c'est que là, mettons, est-ce que Andy Reid, ça va-tu être son dernier match en fin de semaine? Il y en a qui parlent de ça, que peut-être ouais. Andy Reid va prendre sa retraite après. Je fais des faces avec ça des fois, mais c'est peut-être un peu vrai. Là, Travis Kelce, vas-tu vouloir jouer à Kansas City longtemps, là, avec Taylor Swift? Elle va-tu dire à un moment donné, hey, mon beau Travis,
c'est beau Kansas, mais on va dire qu'il allait peut-être prendre sa retraite là, s'il perdait contre les Bills.
Ça se peut.
Il y en avait qui évoquaient ça comme possibilité.
Ça se peut. Ou elle va peut-être dire, gars, Travis, Kansas City à moins 40, comme l'autre fois dans la loge, c'est drôle une fois, mais t'as-tu pensé signer avec Vegas ou les Rams ou peut-être même New York ou. Fait que, tu sais. Il y a tout ça, là. Ça va être difficile à maintenir ensemble, cette équipe-là. Tu sais, Jones a signé un gros contrat cette année, mais mm-hmm. il a bougonné un petit peu au début du camp d'entraînement. Ouais. Puis en général, je pense qu'ils ont un petit peu moins de talent sur le line-up qu'ils en avaient dans les dernières années. Ouais. Fait que ça va être dur de garder tout ça ensemble aussi. Ouais. Là. Fait que je suis assez confiant. Là.
Sur papier, le talent a baissé. En termes de performance, les Chiefs, ça l'a baissé également, mais les Chiefs, j'ai l'impression que quand ils arrivent en série, c'est une toute nouvelle équipe.
L'expérience est là.
C'est ça, l'expérience est là. Ils sont super durs à battre. Là.
Pis,
c'est pas pour rien que Mahomes et Kelce ont battu le record de Brady et Gronk.
Exact. Mahomes, l'expérience est là. Tu sens que lui avec, je parlais de Lamar Jackson, tu sens que lui aussi dans son prime, mais lui, c'est son attitude. T'sais, des fois, je trouve qu'il gère plus ou moins bien ses émotions. Par contre, je pense qu'il était assez impeccable dans le match contre Buffalo. Mais en tout cas, mais tu sais, je fais un peu des blagues avec ça. Tant mieux pour eux autres si ça a créé une dynastie. Mais ça va être bien dur d'aller chercher les 6 championnats des Pats. Puis pour Mahomes, avoir 7 bagues. Tu sais, des fois, j'ai des chums qui prennent pour les Chiefs. Ils me disent, ah, tu vois, ça va être le GOAT. Hey, ouais. Hey, bonne chance. Il manque 5 bagues.
Ouais.
Ça, veut dire,
ouais, c'est malade.
Ça veut dire 5 championnats. Faut que t'aies gang. Puis tu sais, une saison de football, là, c'est le camp d'entraînement au mois d'août. C'est les matchs hors concours. C'est les games du mois de septembre avec les ajustements. Les games du mois d'octobre. Le mois de novembre où ça commence à être plus serré. Pour gagner 5 fois, il faut qu'ils jouent au moins 10 ans encore. Là.
Ouais.
Bonne chance.
T'as mentionné qu'est-ce qui est cool avec les Pats qui ont réussi à durer dans le temps. T'as mentionné avec le cap salarial, c'est vraiment difficile. C'est quoi ton plus beau souvenir de ce run-là des Patriotes, là, mettons, de 2000 à 2019? Là?
J'en ai plusieurs, mais tu sais, c'est sûr que mon plus beau souvenir, c'est le Super Bowl 49. Moi, j'étais présent au à Glendale, en Arizona. C'était le Super Bowl contre les Seahawks. Okay. Ouais. Puis c'était un match, tu sais, les deux équipes se sont échangées l'avance plusieurs fois dans le match.
Ouais.
Puis tu sais, c'était la grosse époque des Pats avec Edelman, avec Gronk aussi, avec
Amendola,
avec je pense que Garrett Blunt aussi. Était là aussi, porteur de ballon, grosse defense avec Hightower et compagnie, McCourty. Je pense que Darrell Revis était là aussi.
Mais il y avait Chandler Jones en ce
temps. Chandler Jones aussi. Puis écoute, le jeu à la fin, l'interception de Malcolm Butler, écoute, on était dans le stade, puis... Tu sais, tu regardes ça, puis tout le monde pensait, tu sais, tout le monde voyait déjà l'image de Marshawn Lynch, le porteur de ballon rentrer dans la zone avec le ballon, puis mettre fin au match. Finalement, c'est une passe. Personne ne comprenait ce qui se passait là, puis l'interception incroyable de Malcolm Butler. C'est mon plus beau souvenir, mais j'en ai un autre aussi, puis c'est une game de saison régulière. Mon père est mort en 2013, au mois de le 27 septembre 2013. Puis écoute, ça a été un an de combat contre le cancer, tu sais, c'était pénible et tout ça. Puis quand il est décédé, bon, on a fait les funérailles, mais la semaine après, je me suis dit, OK, là, on m'a profité de la vie, là. Mm-hmm. J'ai pris 1500$, puis j'ai acheté 3 billets dans la 10e rangée du Gillette Stadium pour aller voir les Pats contre les Saints de Nouvelle-Orléans. Tu sais, moi, d'habitude, j'allais dans les balcons, là, dans les billets en haut, dans le 300. Là, je me suis assis dans la 10e rangée, puis j'ai vu Brady faire un de ses comebacks mémorables. Tu sais, à la Brady, en toute fin de match, avec une passe de toucher de la victoire avec genre 20 secondes à faire. Tu sais, à 15 rangées du terrain, tu sais, c'est...
Ah, tu le vis encore plus.
Ah ouais, puis tu sais, Brady, des fois, je pense à ça, je l'ai vu jouer une trentaine de fois en personne. Tu sais, c'est... Je me sens vraiment chanceux de l'avoir vu jouer comme ça. Puis ça, c'est les deux plus beaux souvenirs. J'en aurais d'autres, tu sais, j'ai allé au Thanksgiving à Détroit aussi. Voir Pats Lyon au Thanksgiving dans le Ford Field en 2010. Une rince, là. Les Pats étaient tellement forts. Randy Moss aussi, les catchs que Moss faisait, c'est mémorable de cette époque-là. Là,
Absolument.
Mais aussi, j'étais fan des Pats là, quand je jouais, mettons, au primaire, secondaire. Puis j'adorais ça parce qu'ils gagnaient souvent. Mais après ça, je me suis rendu compte que j'étais un fan de Brady, dans le fond, parce que quand il était avec les Bucks, là, je regardais les Bucks avec mon père, puis j'étais comme...
T'as fait ça, toi?
Mais les Bucks sont malades, mais tu sais, je m'identifiais pas à une équipe, puis là, je me rends compte aujourd'hui que j'aurais peut-être dû, parce que là, j'ai pas d'équipe, puis je job dans les Ben Wagon à chaque année.
Mais les Bucks sont pas un mauvais club encore, là.
Non, c'est ça.
Avec Baker Mayfield.
Mais là, je prends pour les Lions, mais tu sais, je suis pas un fan des Lions.
Mais c'est correct aussi, ça, tu sais, c'est bien correct. Je suis un peu de même au hockey. Tu sais, moi, je suis un fan des Bruins maintenant au hockey, mais... Tu sais, j'aime bien suivre l'Avalanche aussi encore, les Rangers, Vegas un peu, c'est bien correct aussi ça là, tu sais, puis d'autres bons souvenirs aussi, c'est les camps d'entraînement des Pats.
Ouais.
Moi, je vais toujours presque à chaque année, 2 années sur 3 les voir pratiquer à fin juillet, c'est dernier jeudi de juillet. Ouais, Foxborough. Puis je me souviens les premières années de Tom Brady quand il signait des ballons autour, tu sais, c'était pas la méga vedette qui est aujourd'hui là. Tu sais, il prenait le temps de signer des ballons aux fans, puis tout ça, c'est des cristis de bons souvenirs aussi, ça. Toute une époque, ça. Toute une époque.
C'est l'heure d'aller en pause, il est 9h30.
Ah oui, donc, tu fais-tu la mise en onde toi-même?
Oh, oui, j'ai toute la console avec le jazzer, là. Vous avez sûrement quelque chose de mieux au 93.
Ben, moi, la mise en onde, oublie ça, je te mêlais avec ça. Je te trouve pas pire de faire ta mise en onde toi-même. Ouais.
Donc, on s'en va en pause. On a 3 ou 4 minutes de publicité. Et restez avec nous parce que Jérôme Landry est encore là, au retour. Donc, restez là.
Prochain message d'intérêt public.
Si t'es un mélomane de Québec et que t'aimes des artistes comme Jimmy Hunt, Wednesday, Laurence Anne, Nushu, Hiatus, Coyote, Fudge, pis que t'es vraiment tanné d'entendre des tunes dans ce genre-là.
Que t'aimes ça découvrir de la nouvelle musique émergente, qu'elle soit locale ou internationale, c'est au Club Critique que ça se passe. Go!
Un mardi sur deux, de 14 à 15 heures, on décortique 3 albums et on écoute de la musique parce que c'est la seule chose qu'on sait faire.
Qu'on aime faire.
Club Critique, c'est ma opinion musicale.
Vous écoutez maintenant LSDJ7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Cheese 94.3 FM.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
M'a te parlé une autre bière, Jacques.
Ah, y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière et l'oie.
Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate.
Hey, ça paraît que t'écoutes pas à l'antenne sur Cheese. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzelanek en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, et en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parlait plein d'autres affaires.
Ben coudon, c'est jeudi de 13h30 à 14h en plus. Ouvre la radio puis monte le son.
Sur les ondes de Cheese, 94.3.
En Moukau Sitz.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeositz. Anmukeositz, tous les dimanches à midi sur Cheese 94.3.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chérie J'arrive sur zone de Cheese 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invité, interview et défi de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric
et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but.
Les Remparts de Québec visitent le Drakkar de Baie-Comeau ce samedi 27 janvier à 16h. Rick Routier vous attend de 15h45 pour son habituel avant-match. Remparts Drakkar, samedi à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. Charles Boisvert au micro et en studio avec moi, Antoine Bélanger et notre invité de ce soir, Jérôme Landry. Jérôme, avant la pause, on parlait de football. On a parlé beaucoup d'une des deux demi-finales. Mais là, il y en a une autre entre les Lions de Détroit, que ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'on les a pas vus là, et les 49ers de San Francisco. C'est quoi ton analyse du match?
Ouais, je pense que les 49ers vont gagner. Là, ils sont assez complets, défensives, offensives aussi. Puis tu sais, je sais qu'il y en a qui disent leurs demi-défensifs sont pas tant bons, mais mon fils, il est demi-défensif là, au collège de Lévis, puis ouais. Il regarde beaucoup les DB, puis honnêtement, il me montrait ce qu'il faisait dans le game l'autre fois, le dernier match contre les Packers. J'étais obligé de dire que leurs DB sont pas si mauvais que ça non plus, la tertiaire. Mm-hmm. Fait que non, je pense que les Niners vont gagner malgré... Malgré Purdy, tu mets Brock Purdy avec des receveurs ordinaires.
Je pense pas que ça donne un bon match.
Mais là, il est tellement bien entouré avec George Kittle puis Samuel puis McCaffrey aussi. Ah, McCaffrey qui était incroyable dans cette game-là. Nick Bosa aussi qui est pas reposant défensive. Mais tu sais, j'aimerais ça que les Lions gagnent. T'sais, moi, j'adore Aiden Hutchinson. Ouais. Je l'aime bien, je trouve que c'est un joueur...
Un gars du Michigan en plus, là, qui est allé à l'université au Michigan.
Ouais, exact. Ouais. Puis moi, j'aime ça, ce genre de joueur-là, défensif, raide, qui est vraiment, excusez le terme, là, mais qui est violent. Là, ouais. qui réussit. C'est drôle, il a comme une face super sympathique, mais sur le terrain, quand même assez violent. T'sais, j'aimerais ça que les Lions gagnent, mais je pense que... En tout cas, j'espère qu'on va une bonne game. T'sais. Moi, j'aime pas les blowouts dans le football, c'est beaucoup moins le fun. Ben, mais je pense que les Niners vont gagner.
Peu importe le sport, c'est toujours plus fun à suivre une game qui est serrée.
Ben ouais, c'est ça. Puis c'est ça que je nous souhaite, tu sais. Fait que. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on s'enligne vers un Super Bowl entre les 49ers puis les Ravens de Baltimore. Puis c'est le fun, tu sais. À Québec, il y a beaucoup de fans des Niners aussi. Moi, j'en connais des vieux de la vieille, tu sais, qui trippent ces Niners depuis Jerry Rice puis Joe Montana puis toute cette époque-là. Ronnie Lott et compagnie. Fait que non, ça va être. Ça serait intéressant, mais c'est sûr que de voir les Lions. Écoute, moi, ça me fait tellement bizarre de voir les Lions en finale de conférence, là.
Ouais.
Tu sais, moi, je me suis de l'époque de Barry Sanders, puis je pense que c'était en 91 d'ailleurs, la dernière fois qu'ils sont allés en finale de la conférence nationale. Ils jouaient dans le Silver Dome à Détroit, puis ça, c'était quand même, ben écoute, j'allais dire, c'est une grosse équipe. T'sais, à part Barry Sanders, je me souviens pas de grand monde. Mais Sanders était tellement. Moi, des fois, mon gars me demande, c'était qui le GOAT des porteurs de ballon? Moi, mon époque de jeunesse, c'était vraiment Barry Sanders. T'sais, qui a eu une carrière trop courte, malheureusement, qui a décidé d'arrêter à un moment donné, mais hey, ce gars-là était incroyable sur le terrain. Il était pas arrêtable. Fait qu'il y a un petit côté qui... J'aimerais ça, ils sont jamais allés au Super Bowl, les Lions. T'sais, ils ont jamais gagné, puis je pense qu'ils ont jamais participé non plus. Fait que, petit côté de moi qui aimerait ça, mais je pense que les Niners vont être là.
Ça serait vraiment le fun pour leur fanbase aussi. Là, t'sais, sont tellement loyaux. Là.
Ouais.
T'sais, ils étaient pourris là, dans les dernières années, puis il y avait des fans quand même qui étaient
c'est
là
ça,
au match.
Ils étaient là. Ah, les autres, ils reviennent tellement de loin. Ils sont fins, leurs fans. T'sais, comme je disais tantôt, je suis allé une fois au Thanksgiving à Détroit, puis t'es super gentil, les fans là-bas. C'est une ville où ça brasse, Détroit.
Un peu aussi.
Là. C'est pas trop comment ça va donner. Ouais. Dans la ville, autour, là, c'est moins peu aujourd'hui, là, mais mm-hmm. Fallait pas que tu t'arrêtes aux lumières dans le temps, là, en auto. Là, fallait que tu continues. Mais dans le stade, les fans des Lions étaient super sympathiques. Ouais. C'est une belle crowd à Détroit aussi. Là.
On va conclure la rubrique football avec une question bien simple. Qui gagne le Super Bowl cette année?
Ouais, avec les Ravens.
Les Ravens.
Ouais, je voyais avec les Ravens.
C'est l'année de Lamar Jackson.
Ouais, Lamar Jackson avec son nouveau contrat. Puis ouais, je pense que ce qui manquait, c'était justement un gars comme Odell Beckham Jr. Flowers aussi. Je pense qu'il avait jamais joué vraiment avec des aussi bons receveurs que ça. T'sais, souvent, leur identité, eux autres, dans leurs grosses années, c'était à la défensive avec
Ray Lewis,
Terrell Suggs, puis Ed Reed aussi, le maraudeur, qui était un autre violent. Là.
Ces trois-là ensemble.
Je sais même pas si ça existe encore des safety comme Ed Reed. Là, tu vois que c'est plus, oui, une bonne défensive, mais là, tu vois que c'est plus... c'est plus l'offensive. Je trouve que Lamar, il est rendu là dans sa carrière. J'aimerais ça, puis je pense qu'ils vont gagner. John Harbaugh aussi comme coach, je pense qu'il a raffiné son style un peu. Fait meilleure impression. Je suis pas dans le vestiaire, mais je le regarde aller sur le sideline, puis tout ça, ses joueurs ont l'air de vouloir jouer pour lui aussi. Je pense qu'il est amélioré aussi comme coach, mais ce qui est le fun dans la NFL aussi, c'est qu'il... il peut arriver un upset n'importe quand. Il n'y en a pas eu tellement en série. Là. Mais,
À part Packers-Cowboys.
Malgré
qu'il y ait Cowboys.
Mais Cowboys, ouais. Tu me diras, c'était prévisible.
Ben, c'est ça. C'est pas comme les Bills, mais quasiment. Là, ouais. Mais tellement de talent que les Cowboys. Mais je pense que ça va être l'année de Lamar Jackson cette année.
Ça ferait tellement une belle histoire. John et Jim Harbaugh qui sont champions chacun là, dans
collégial
et pro la même année. Là.
Lamar Jackson, gang ou pas. Hey, tu peux pas t'ennuyer quand tu le regardes jouer. Là.
Ah, non. C'est tellement divertissant.
J'aimerais
sur le
tellement
terrain,
ça hein. Que les Pats repêchent un corps mobile au troisième rang au repêchage. Peut-être un Jaden Daniels cette année.
Un petit Caleb Williams peut-être.
Ouais, lui, je pense qu'il va sortir au premier rang encore. Là, puis son attitude, je suis pas trop sûr. Ouais. Ils vont peut-être prendre May là, qui est Drake plus May, un carrière de pocket. Puis tout ça, mais. T'sais, un carrière mobile au football.
C'est rendu ça la norme, là.
Ouais, pis c'est tellement divertissant. Moi, je suis un des gars les plus spectaculaires que j'ai vu, c'est Michael Vick, là.
Ouais.
C'est Michael Vick, quand il jouait avec les Eagles pis les Falcons, je veux dire, c'était impossible de décrocher de la télé, là. Mm-hmm. Même quelqu'un qui appréciait plus ou moins le football pouvait pas rester indifférent à ça. Fait que, je t'en vais être bon pour la NFL, je pense, si Lamar Jackson se promène avec le trophée aussi dans deux semaines, excuse.
Ouais. Tout à fait. Ouais. Ça va être à suivre. Puis non, c'est clair que bon, d'ici les prochaines semaines, on va continuer d'en parler là, ouais. Le football à Boisvert Radio parce que on est vraiment dans le plus beau temps de l'année. Là,
exact. Là, ça achève là.
On aime ça la danse du printemps au hockey. Ben là, c'est la danse de l'hiver au football.
Exact.
Je sais pas là, si on appelle ça même des fois. Là.
L'entre-saison est tellement long. Tu sais, nous autres, ouais. Foxborough, là, on va parler pendant 3 mois du repêchage. Moi, ouais. J'écoute beaucoup la radio de Boston. Là, puis ils sont là-dedans. Là. Tu sais, on trade dessus pour avoir le premier
pour
choix.
Monter, puis, culture.
Ouais, exact. Fait qu'on va en 3-4 mois après ça avec ça.
Ouais, puis après ça, toujours les agents libres. Il y a tellement de mouvements à chaque été dans la NFL.
Puis Jerod Mayo à Foxborough a dit, garde, on va brûler du cash cette année.
Ouais.
Vois-tu, tu parlais des box, là. Moi, je rêverais de voir Mike Evans avec les Pats.
Ouais, ce serait vraiment hot, ça. Je pense que j'en deviens un fan des Pats.
Ça arrive, hein? Ouais, on va te réaccueillir. On va t'accepter.
De retour. J'ai envie qu'on parle de hockey pour le reste de l'émission. Il nous reste à peu près un peu moins de 20 minutes.
Ouais.
Bon, grosse nouvelle, là, la semaine passée, là, avec Patrick Roy, qui, contre toute attente, j'ai l'impression que ça a leaké nulle part avant.
Non,
contre toute attente, Patrick Roy est devenu entraîneur-chef des Islanders de New York. De quelle manière t'as perçu cette signature-là?
Je pense que c'est un gros coup de Lou Lamoriello. Puis je pense que c'est un bon fit parce que Lou Lamoriello, c'est un gars de la vieille école.
Oui.
C'est Lamoriello, là, ça date d'il y a longtemps.
Les numéros, puis pas de barbe, puis pas les cheveux trop longs. Là.
Exact, puis... T'sais, toujours bâti des bonnes équipes. T'sais, c'était lui l'architecte des Devils à l'époque, t'sais, des Coupes Stanley, des Devils. Ça a été plus tough à Toronto, là, t'sais, ça a été un petit peu plus,
ouais, c'est vrai.
Un peu plus difficile, là, mais je pense que c'est un très, très bon, match. La seule question que je me pose, c'est, t'sais, je regardais le premier morning skate dimanche matin, là, j'ai pas vu toute la pratique, mais t'sais, Patrick, c'était t'sais, le bâton à l'air, crie après un tel.
Fesse
sa glace. Il a dit, je pense comment il s'appelle le gars, il a dit
Samuel
Bolduc. Samuel Bolduc. Bolduc, c'est pas ta job.
Bolduc qui joue pas ce soir pour les Islanders, mais qui joue jeudi. Fait que il y a eu quelque chose.
Il y a de quoi, hein, c'est ça. Fait que ça, dans le pro en 2024. Je sais pas si ça marche encore. C'est le seul questionnement que j'ai. Parce que même avec des plus jeunes, pis ça, on pourrait dire, ouais, il a fait gagner la Coupe Memorial au Rempart. Ouais. Mais tu sais, un coach de junior n'a pas la même relation avec ses joueurs qu'un coach en Ligue nationale, là.
Ouais.
Tu sais, dans le show, dans la Ligue nationale, quand les joueurs décident qu'ils veulent plus jouer pour un coach, les gars s'en balancent. La paie rentre pareil. Ils savent que ça va faire ailleurs au pire. Puis souvent, ils s'organisent pour que le coach débarrasse, tu sais. Puis même dans le hockey mineur, tu sais, ou dans le hockey scolaire, tu sais, moi, je suis là-dedans quand même depuis quelques années, là, tu sais, puis je m'aperçois qu'un coach qui crie tout le temps, là, à un moment donné, les joueurs l'écoutent plus. Mais tu sais, je veux pas trop amener le négatif parce que Patrick, il va amener quelque chose qui manque à tellement d'équipes, c'est de l'émotion. Fait que je pense qu'il y a bien plus de positif. Tu sais, je me pose des questions, mais je pense que ça va être tellement positif d'amener de l'émotion à cette équipe-là. T'sais, des fois, c'est un peu ce qui a manqué chez le Canadien aussi dans les dernières années. Là, avec Martin Saint-Louis, ça revient un peu, mais t'sais, il va amener de l'émotion. Si tu as le chandail des Islanders, tu ne pourras pas te traîner les pieds sur la glace. Là. Tu ne pourras pas te pogner le beigne là, parce que ça ne passera pas pantoute. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. C'est quand même une équipe qui a du talent un peu, pas une équipe pactée non plus. Mm-hmm. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
Une affaire qui m'a étonné de ça, c'est que je trouvais comme le match bizarre. Parce qu'on dirait que je regarde les Islanders depuis plusieurs années, puis ils sont comme toujours dans l'ombre un peu des Rangers. Oui. Puis ça m'a l'air d'une équipe... c'est peut-être des termes un peu lourds, mais un peu beige, un peu sans personnalité.
Oh, ouais. La deuxième équipe de la ville.
Puis
là,
troisième,
t'amènes probablement l'entraîneur, un des plus intenses, un des plus flamboyants de la ligue, même s'il vient juste de déjà arriver. C'est un drôle de mix que j'ai trouvé.
Parce que les autres, tu sais, sont beaucoup dans leurs souvenirs à New York. Là. Tu sais, quand t'arrives là, tu regardes les bannières.
Ouais, Mike Bossy, Brian Trottier.
C'est ça, Billy Smith et compagnie. Ouais. Tu sais, ils sont beaucoup là-dedans, tu sais, beaucoup dans leurs souvenirs. Puis là, il faut qu'ils se créent une nouvelle. On dirait que c'est une équipe qui a de la misère à se faire une identité.
En constante reconstruction.
Puis l'identité est dure à trouver. Tu sais, moi, je me souviens des années aussi avec Pierre Turgeon dans les années 90. Mm-hmm. Tu sais, là, t'as un Matt Barzal, mais tu sais, l'identité comme...
C'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment le style.
C'est pas comme les Pingouins, c'est Malkin, Crosby, les Caps, c'est Ovechkin. Puis tu sais, ils jouent dans cette division-là aussi. Dans
la division métropolitaine est tellement dure à part.
C'est ça, tu sais. Puis ils ont une vedette, John Tavares, à un moment donné. Mais tu sais, ça n'a jamais levé tant que ça que Tavares non plus à l'époque. Tu sais, fait que... J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Mais en tout cas, ça crée de l'engouement, ça c'est clair. Écoute, on s'en va là, nous autres, on va aller voir un match... On va organiser un voyage d'ailleurs pour aller voir un match prochainement là.
Ouais, ben justement, t'en as parlé, je pense, aujourd'hui à Radio, la Nordic Nation. Là,
un petit voyage
avec les Islanders. C'est juste des rumeurs ou c'est confirmé?
Ben c'est presque confirmé. On est en train de vérifier les billets pour quel match, quel hôtel, puis tout ça. Puis dans les prochaines heures, on devrait avoir une confirmation. Mais je fais juste en parler à radio, là. Puis j'ai plein de textos, plein de messages. Hey, on veut y aller.
C'est quand, Charles, qu'on y va, là?
C'est le 23 mars.
23 mars,
juin. Ouais. Nous autres, on a réservé comme, je pense, la journée ou deux journées après que Patrick Roy ait signé. Puis je pense que les billets ont comme monté de quelque chose de 10-15$. Ça reste déjà pas cher. Les Islanders. Patrick Roy avec les Islanders, ça reste plus cher, mais ça reste quand même dans l'abordable. T'es beaucoup moins cher qu'au Madison.
Co-Rangers. Exact. Hein. Fait que tu vois déjà qu'ils vont vendre la merch.
L'effet
aussi,
est là, tu
sais. C'est ça. Puis je vois du monde qui sont achetés des casquettes. D'après moi, là-bas aussi, on a vendu quelques chandails à Adidas à 300$, d'après moi aussi, là-bas avec ça. Là. Fait qu'il y a déjà un effet, d'après moi, commercial assez important aussi. Là.
Ouais, c'est parce que longtemps, comme on dit, longtemps l'identité, ça a été les légendes, les Mike Bossy de ce monde. Puis après ça, ça a été l'identité de l'équipe, ça a été John Tavares. Puis là, on va bâtir probablement autour du nouvel entraîneur. On souhaite qu'il s'entende bien avec Matthew Barzal et Noah Dobson parce que c'est le futur
Dobson,
qui va être dans le top 5 du Norris, là, assurément.
Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un certain potentiel, mais tu sais, en même temps, c'est pas une équipe qui va aspirer à Coupe Stanley non plus.
Les
4-5 dernières années, ils ont fait comme 3 finales de conférence de l'Est, mais je pense que c'est à cause de la pandémie, sérieusement, parce qu'ils arrivaient, on dirait, en série, puis les Islanders, ils passaient en dessous des équipes, puis en finale d'association.
Ça arrive qu'ils font ça.
Il n'y a personne qui était content des voir là.
Non. C'est pas.
À l'extérieur de la ville, ils n'ont pas une grosse fanbase.
Non, c'est ça, exactement.
Non, c'est ça, puis les Rangers sont
moins dans la ville.
Ben, c'est ça, sauf que là, je pense qu'il y a le nouvel amphithéâtre. Je suis pas encore allé. Moi, je suis allé dans le vieux à l'époque, mais je pense que les banlieues hors de.
Ouais, c'est ça, c'est dans la banlieue.
Ouais, c'est quand même. C'est peut-être. Quel trafic, là? Ça peut prendre 1 heure et quart facile si tu pars le Manhattan, te rendre là, au bout de l'île, là. Mais je pense que la crowd là-bas, tu sais, c'est Long Island, c'est quand même assez. C'est riche, là.
C'est
quand même familial aussi, tu sais. C'est pas comme Manhattan, c'est quand même différent. Tu sais, t'as plein de familles qui aiment le hockey aussi, puis il y a une tradition, fait qu'ils vont peut-être arriver à quelque chose à un moment donné avec ça, avec tout ça. Là.
Ça se pourrait, puis présentement, ils sont à 2 points d'une place en série, donc, tu sais, leur saison est pas perdue là, encore, là, donc, si l'effet Patrick Roy fonctionne, on va peut-être voir Patrick et sa troupe là, en série de
avant
cette
le Canadien. Avant le Canadien, ben, le Canadien, c'est des plans n'en plus finir. Puis...
Ah, à soir, c'était l'enfer. Là. Ça n'a pas de sens.
Ils ont perdu à soir encore?
Ouais.
4-1.
Bon,
avant de venir, j'écoutais la game puis je capotais. Là. Ça n'avait même pas de classe. Là, c'est...
Mais le Canadien...
Ça joue sans effort, c'est l'enfant.
Parenthèse là, sur le Canadien, parce que je ne voulais pas nécessairement en parler ce soir. Là, mais c'est fou comment on sort des performances extraordinaires contre des équipes comme les Rangers puis les Oilers, dans les meilleures équipes de la Ligue. Puis après ça, Columbus, c'est terrible. Ottawa, c'est terrible.
C'est sûr. Mais quand les autres clubs jouent pour vrai, tu sais, des fois, sur 82 games... C'est pas vrai que toutes les équipes sont à 100% le gaz au fond à chaque match. Fait que je pense que le Canadien, des fois, il tombe sur des games comme ça. Ouais. Mais tu sais, l'autre fois, Buffalo, quand ils ont décidé Boston en fin de semaine, le Canadien touche presque pas rondelle. Quand les autres équipes décident de jouer, puis c'est très, très tough. Puis c'est de valeur parce que moi, j'aime bien Martin Saint-Louis. Sérieusement, il me fait penser un peu à Patrick comme coach. Ouais. Peut-être un peu moins flamboyant.
Un peu moins, c'est ça.
Mais il me semble que si j'avais le gilet du Canadien, puis c'est Martin Saint-Louis qui est en arrière du banc, j'essaierais de me forcer. Là.
Ouais.
Il me semble que j'essaierais d'avoir de l'intensité, il me semble.
C'est ça, ça reste des jeunes en développement, puis des jeunes en développement, ça se présente pas nécessairement à chaque match.
On va développer pendant 8 ans, là, encore, là, à peu près.
Puis justement, je me souviens plus avec qui je parlais de ça tantôt, mais une équipe qui développe les jeunes, c'est les Sénateurs d'Ottawa notamment, parce que t'es des Tim Sutzlel, des Jake Sanderson, des Thomas Chabot. Puis le lien que je veux faire, c'est que les Sénateurs, là, ils ont-tu manqué leur shot 5 un peu avec Patrick Roy? Là?
Ah, je pense que oui, là. Sérieux. Oui, je pense qu'ils ont vraiment manqué leur occasion. Puis eux autres aussi, ça aurait été bon pour l'engouement. Tu sais, s'il y a une équipe beige, je parlais d'équipe beige tantôt, là. Tu sais, ils ont beau avoir du talent, puis je sais pas si vous êtes déjà allé voir les games des Sénateurs, là, mais si tu te lèves, tu cries, t'es dérange, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, là, c'est un salon mortuaire, là, le Canadian Tire Center. Fait que,
en plus, t'es même pas au centre-ville.
Non, t'es à 25 minutes du centre-ville, à peu près. Ça, par contre, quand ils disent ça, là, moi... Ça me fait chier quand ils disent ça, parce que moi, les Nordiques, à 25 minutes du centre-ville, moi, y aller pareil.
Ben je trouve que
ils devraient y aller voir leur équipe pareil. Je comprends que c'est pas l'idéal, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, quand je les entends dire ça, c'est trop loin. Hey,
sacrifice. En plus, le centre-ville d'Ottawa, il n'y a pas grand-chose à faire non plus.
Non, c'est assez tranquille aussi, le centre-ville d'Ottawa, mais bref, ça
au Parlement, puis t'as fait le tour.
C'est ça, tu sais, ça a ramené de l'émotion aussi, tu sais, le sport. C'est ça, c'est de l'émotion, c'est un show, surtout le hockey. Tu sais, s'il y a un sport, il faut que tu joues avec émotion. Oui, le côté technique et tout ça, c'est rendu très technique, le hockey, mais en même temps, si tu joues pas d'émotion, ça mène nulle part. Là, nulle part là,
c'est clair que si tu amènes Patrick Roy à Ottawa, tu as la rivalité naturelle avec les Maple Leafs, les deux équipes de l'Ontario qui auraient vraiment pris une coche au-dessus et que dire de Ottawa-Montréal. Ben, Patrick Roy contre Martin Saint-Louis, là, c'est vraiment c'est le match-up de coach de rêve.
Toi, parce que là-bas, la réalité, c'est que. C'est encore un marché du Canadien, là, Ottawa. Là. Ottawa-Gatineau, c'est un marché du Canadien.
C'est l'entre-deux, là.
C'est même plus que l'entre-deux.
Je sais pas si vous avez vu Tim Studio la semaine passée, il était genre je suis vraiment content que le genre de Marc Denis d'Ottawa, il l'interview puis il demande comment tu te sens après la première étoile. Il dit je suis vraiment content que les fans des Canadiens ils s'en aillent.
Ah oui,
c'est pas bon. C'est pas bon pour ta franchise à toi, Bodé, là, si les estrades sont remplies. Ça a pas de bon sens.
C'est ça, ça aurait peut-être augmenté un peu le sentiment d'appartenance avec les Sens. C'est une grosse erreur, à mon avis.
Faudrait qu'ils viennent à Québec.
Ouais, les Sénateurs, ouais. Je pense qu'avec le nouveau propriétaire, ça va être plus tough un peu, là.
Ouais, c'est sûr, là.
On va voir les Kings, nous autres. On va voir les Kings.
Hey, on va voir les Kings. Deux matchs hors concours au mois de septembre.
Je vais être là pareil. Ça va être. On va être pas pire quand même, là.
Ouais.
On va être pas pire.
T'sais, les Kings ont une équipe intéressante. On aurait pu avoir pire.
Ben écoute, Kopitar, Dano et compagnie, tu sais, je veux dire, c'est un bon club de hockey, les Kings,
c'est ça,
là. Juste Kopitar puis Dano, tant qu'à moi, c'est les deux premiers centres, Pierre-Luc Dubois aussi.
Drew Doughty,
c'est ça, Doughty. Ben Martinez va être encore là aussi.
Hier, j'ai écouté un podcast avec Luc Robitaille, il s'était drette sur le tape, puis il raconte un peu, là, on voit pourquoi ils s'en viennent à Québec. Là, il raconte qu'il était dans tous les meetings du retour de la Ligue nationale à Québec. Chaque fois que Pierre Lacroix, il voulait, lui, était bien impliqué. Il y avait Renaud Angélil, il y avait Luc Robitaille, fait que je comprends pourquoi il y a une affinité aussi.
Ouais, puis la compagnie AEG, je me souviens à l'époque, dans la grosse époque du retour des Nordiques, il était comme derrière le projet, puis il y avait Benoît, dont j'oublie le nom, le premier boss du centre Vidéotron.
Okay.
C'est Benoît, dont j'oublie le nom de famille. Là, il est rendu, je pense, au Nebraska. Mais lui était très, très proche de Luc Robitaille. Puis c'est lui qui devait devenir président des Nordiques, probablement. Puis ça a été le premier boss du centre Vidéotron. Mais ça, c'était toute la filière de Pat Brisson puis de Luc Robitaille puis d'AEG à Los Angeles. Ça. Fait qu'il y a toujours eu une espèce d'affinité. Puis c'est quand même une équipe qui a du poids sur les Kings, d'après moi, au sein du bureau
t'as pas
des
le choix quand tu vas à Los Angeles.
Énorme marché d'hockey, tu sais.
Méchant gros marché.
Tu veux pas Rob Blake puis ce Luc Robitaille.
Marc Bergevin.
Marc Bergevin.
Qui est là, réuni avec Dano, puis c'est ça. Ouais. Une des belles places où je suis allé au hockey, d'ailleurs, au Kings, là, c'est
au
vraiment.
Staples Center? Okay.
Ouais, ah, c'est ouais. vraiment chalant.
Ah, ben, le crypto.com, là.
Maintenant, crypto, ouais. mais moi, quand je suis allé, c'était le Staples Center. Demi-finale de l'Ouest, Chicago, LA. M'a dit rien à faire, les.
Le chat qui était plein,
là. Et, mais c'était un marché de hockey, LA, là.
Vraiment.
Je suis encore allé l'été passé à Los Angeles, puis sur le bord de la plage, à Manhattan Beach, tu vois des drapeaux des Kings, puis tout ça.
Ah, ouais,
pis, oh, oui. Plus que des Rams ou des Chargers ou tout ça, les Kings,
c'est vraiment les Lakers, là, on s'entend.
En fait, c'est l'équipe de LA, je te dirais, c'est beaucoup les Dodgers, puis c'est USC.
Il y avait les Raiders aussi dans le temps.
Ouais, et non tellement, c'est tellement énorme, mais t'as raison que les Lakers, les Dodgers, puis les Trojans. Trojans, c'est incroyable comme quand même l'âge LA.
UCLA aussi.
Ouais, exact.
J'ai envie qu'on prenne les 3-4 minutes qui restent à l'émission pour parler un peu d'hockey mineur, parce que ton gars est dans le scolaire avec le collège de Lévis. Y a-t-il une raison pourquoi le scolaire t'a peut-être plus attiré que le civil? On sait que justement l'essor du scolaire, là, ça a pas de sens. Là. J'arbitre le M15-D1 est beaucoup meilleur que le M15-2A. Là. C'est même plus comparable.
Ouais, c'est ça. Et puis ça, écoute, on pourrait parler du 3 aussi, puis de ce qu'il appelle la structure, puis tout ça. Mais moi, puis c'est lui qui va prendre les décisions, mais moi, je crois beaucoup. Il y en a qui aimeront pas ça, mais je crois beaucoup au modèle américain. Moi, quand je pense à lui, le chemin qu'il pourrait suivre s'il veut, tu sais, j'essaie de pas y trop mettre de pression, mais c'est vraiment prep school, puis écoute,
puis pourquoi pas
après ça, c'est un autre paire de manches, mais tu sais, je le vois très bien parce que je ferai pas de cachette, je suis chanceux, il est très fort à l'école aussi, puis il a un bon niveau de hockey aussi, fait que pour moi, le hockey scolaire, c'est comme une préparation au prep school américain.
Ouais,
puis je vais aller d'ailleurs dans un showcase cet été, fait que je vois un peu les similitudes, puis ce que j'aime là-dedans, c'est que vois-tu, nous autres au collège de Lévis, puis je pense qu'au Blizzard c'est comme ça aussi, puis l'Académie Saint-Louis, c'est que le multisport est vraiment valorisé aussi.
Ouais, mais ça, c'est tellement le best. Les écoles qui font ça, là, c'est...
Football l'automne, puis après ça, hockey. Après ça, quand la saison de hockey termine, ben, tu te recommences à te préparer pour le football.
Et le golf. Il fait trois sports.
Tout au collège?
Le golf, c'est parascolaire. Ça, c'est pas un sport étude, mais quand même, il fait ses pratiques au collège aussi. Fait que moi, c'est sûr que je suis vendu à ce modèle-là. Puis je crois aussi le fait de porter le nom de ton école sur ton chandail.
100%.
Ça fait que, d'après moi, tu vas te forcer à l'école, tu vas te forcer sur la glace aussi. Puis les joueurs de hockey, entre eux autres, ils se relancent avec leurs notes, puis tout ça. Puis moi, ce que j'aimerais, tu sais, je te parlais des prep school puis de la voix américaine tantôt. Moi, ce que je rêve de voir aussi, c'est un rouge et or hockey ici, à l'Université Laval.
Oui. Ah, ça serait incroyable. Il en parle beaucoup dans les médias de ce temps-ci.
Ouais, ça serait un débouché incroyable pour bien des joueurs qui finissent le junior majeur ou qui arrivent des prep ou tout ça. Je pense que c'est la suite logique des choses. T'sais, tu regardes l'Académie Saint-Louis, le Blizzard aussi, c'est des programmes incroyables. Puis il y en a au public aussi beaucoup. Le Camaradien a du hockey, Saint-Jean-Rue a du hockey, Cardinal-Leroy très fort aussi.
Ouais.
Ça serait un débouché naturel pour tous ces joueurs étudiants-là ici à l'Université Laval pour les meilleurs de la gang. Là,
parce que justement, plusieurs ressorts genre de l'Académie, puis de Cardinal-Roy, puis du Collège de Lévis s'en vont jouer collégial. Puis après ça, quand tu termines ton parcours collégial, là, il te reste encore. Tu peux encore te développer au hockey. Là.
C'est ça. À 17-18, exact.
Genre, l'université, là, ça serait vraiment la meilleure sortie possible. Puis même, tu es des étudiants athlètes dans la LHJMQ, des joueurs qui ont des moyennes de fou au cégep. Puis là, ils sortent de la LHJMQ. Puis après ça, t'arrêtes l'école pour aller jouer dans East Coast League?
Ben, il y en a, tu sais, c'est ça. Il y en a qui.
Ou à McGill,
c'est ça, il y en a qui vont aussi à Moncton, puis tout ça. Mais là, faut l'élargir aussi parce qu'à date, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont accès à ça.
Non, c'est ça, exact.
Ça fait que c'est très fort sur la glace, c'est très fort. Mais d'élargir, ça serait bon. Peut-être que. Bon, le terme dilué est peut-être exagéré un peu, mais ce serait peut-être pas tout à fait aussi fort que c'est aujourd'hui, mais il y aurait tellement plus de joueurs qui auraient.
Mais tu sais, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu aurais le débouché un peu du collégial D1 aussi, parce qu'à ce moment, le collégial D1, il faut que tu aies joué. Après ça, il faut que tu aies joué junior 2A. Là. Tu peux pas aller jouer universitaire.
C'est ça,
c'est pas assez bon. Il faut que tu aies joué au moins dans LHJMQ, puis il faut que tu aies joué 2-3 saisons dans LHJMQ pour jouer universitaire.
Je pense que ça va se faire. Moi, je pense que si 3-4 ans, si Jacques Tanguay est derrière ça aussi, c'est parce qu'il y a du.
Il y a du potentiel.
Il y a du sérieux, puis moi, je le souhaite de tout mon cœur que ça va se faire.
Toutes les universités aussi ont un aréna, un complexe sportif dans leur. Ben, un aréna dans leur complexe sportif.
Ouais.
Ou à quelques pas de l'université.
Exact.
Genre, tu fais juste penser au tailgate du Rouge et Or, puis à la façon dont le monde est excité dans la foule, puis au peps, au hockey.
Alex au hockey, là, ce serait. Moi, je pense que tu peux avoir des foules de 3, 4, 5 000 personnes régulièrement, je pense.
Oui, facilement. Oui, il y a un peu la compétition avec les Remparts, mais les Remparts, le public cible, c'est surtout la famille.
Très, très familial.
Très familial. De l'université, t'es
alors que là, justement, tu as tous les étudiants universitaires qui vont aller à la game à 7 heures. Après ça, l'after au pub universitaire, je te dis, c'est les vendredis. Les vendredis, je t'ai réglé ça.
Un samedi d'automne, tu vas au tailgate le matin, tu vas au foot, puis après ça, tu vas au hockey, il n'y a rien de mieux que ça.
Pour la vie vraiment. Étudiante, là, ça prendrait une coche de plus. Ouais,
vraiment.
Je vois l'heure passer, on arrive bientôt à 22h, donc je vais conclure l'émission. Merci beaucoup, Jérôme, là, d'avoir...
Vous êtes bons, les gars!
Merci beaucoup. D'avoir...
J'aimerais ça revenir à votre émission, c'est le fun. Je parle de sport à radio, des fois. Parce qu'il faut
on va te réinviter. Mais là, on a une liste de gars à réinviter. Ça n'a pas de sens.
C'est bon.
Pierre-Cédric Labrie veut revenir. Yannick Lévesque veut revenir. Kim, au pire, on va faire un best-of. On invite les trois en même temps.
Ah, c'est ça.
Ça serait incroyable. Donc, si jamais vous êtes joints à nous pendant l'émission, vous pouvez nous réécouter l'entrevue avec Jérôme sur Spotify, sur Apple Podcasts. Donc, pour avoir les liens, là, suivez-nous sur Facebook. Et évidemment, je vous invite à nous suivre là, sur Instagram pour avoir toutes les nouvelles de Boisvert Radio, les invités. Et c'est ça, les invités lorsqu'ils sont annoncés. Antoine, je te remercie également là, d'avoir été présent ce soir. Tes connaissances de football et de hockey ont été très mises de l'avant ce soir. Donc toujours un plaisir, puis on se revoit à Boisvert Radio très bientôt. Merci à vous aussi, cher public, à la maison.